La doctrine calviniste. Le point de base de la doctrine calviniste reste la Bible, comme le montre ce passage du chapitre 4 de l'Institution de la religion chrétienne. Il nous faut être avertis de nous contenter d'apprendre ce que l'Écriture enseigne, sans accepter aucune subtilité, et même qu'il ne nous vienne en l'entendement de ne rien chercher de Dieu sinon en sa parole. Pour Calvin, seuls certains élus de Dieu peuvent avoir la foi et assurer le salut de leur vie éternelle. Le reste de l'humanité est voué à vivre éternellement dans le péché. La rédemption ne sera pas universelle car le sacrifice du Christ ne vaut que pour les élus. Pour recevoir la grâce divine, le seul moyen est de mener une vie humble faite de renoncement et de sacrifice. Cette idée essentielle est liée à la prédestination. Dieu de toute éternité aurait choisi ses élus. La doctrine calviniste refuse les sacrements, à l'exception de l'Eucharistie et du baptême. Le jansénisme. Le jansénisme est la doctrine théologique élaborée par l'évêque d'Ypres, Jansénius, inspirée de l'œuvre de saint Augustin. Les origines du jansénisme. Jansen Cornelis Otto, dit Jansénius, défend à la tête d'un collège de Louvain les privilèges de l'université contre les jésuites. Évêque d'Ypres en 1636, son œuvre « L'Augustinus » est publiée 2 ans après sa mort par ses disciples. Il y expose une conception rigide du christianisme, reprochant aux théologiens et en particulier aux jésuites de s'être écartés des théories augustiniennes sur la prédestination. Inquiet de ce mouvement dont l'épicentre se situe à Port-Royal, les jésuites dénoncent cette menace d'hérésie au pouvoir royal. La Sorbonne finit par condamner l'Augustinus. La doctrine janséniste. Pour forger sa doctrine, Jansénius reprend les idées de Michel de Bay ou Baius en insistant sur la prédestination absolue. Corrompus par le péché originel, certains hommes se voient accorder la grâce divine par pure miséricorde. Les autres sont abandonnés. En 1583, quand le jésuite Luis Molina affirme que l'homme joue un rôle dominant pour son salut, il se heurte aux protestations hostiles de nombreux catholiques. L'Augustinus est écrit en réaction contre ces théories. Grâce à la propagande de l'abbé de Saint-Cyran, les idées jansénistes se diffusent en France. Les jésuites parlent bientôt de jansénisme et considèrent Port-Royal comme un foyer d'hérésie. Ils résument cette doctrine en 5 points appelés les 5 propositions qui sont frappées d'anathème en 1653. Pascal prendra la défense du jansénisme, ironisant dans les provinciales sur les grâces suffisantes qui ne suffisent pas. L'abbaye de Port-Royal est interdite d'accès aux novices en 1673, puis fermée en 1709, et la bulle Unigenitus en 1713 rejette définitivement la doctrine. Les religions d'Asie. L'Asie apparaît comme le foyer des principales religions polythéistes, lesquelles ont laissé au cours des siècles une empreinte dans l'histoire, mais aussi dans l'art et la littérature. Il faut citer l'hindouisme, principale religion de l'Inde, le bouddhisme qui a rayonné sur toute l'Asie et le shintoïsme qui s'est essentiellement développé au Japon. L'hindouisme. L'hindouisme, religion polythéiste pratiquée par la majorité des habitants du monde indien, et fondée sur les Védas, est l'héritière du védisme et du brahmanisme. Les populations qui se rattachent aux religions animistes, au parsisme, les descendants d'émigrés perses zoroastriens, au judaïsme, au christianisme ou à l'islam sont exclus de cette appellation. De même en sont exclus les sikhs, dont la religion est fondée sur un syncrétisme de l'hindouisme et de l'islam. L'hindouisme est issu d'une tradition millénaire qui n'a pas de fondateur. Les livres sacrés de l'hindouisme. L'hindouisme occupe une place exceptionnelle dans l'histoire par la très grande ancienneté de ses textes sacrés. Les shruti, littéralement « auditions », contiennent les révélations faites par les premiers sages. Les textes ultérieurs sont appelés smrit, mémoire, et forment la tradition religieuse. L'ensemble de ces croyances et pratiques religieuses est décrit dans les Védas, qui signifient « savoir » ou « science ». Ce sont des recueils techniques de formules liturgiques rédigées en sanskrit ancien entre 1800 et 800 avant Jésus-Christ. Ces hymnes transmis oralement pourraient avoir été composés au moins au 5e millénaire. Le Rig Veda ou hymne aux divinités. C'est la partie la plus ancienne consacrée aux dieux individuels. le 129e hymne raconte l'histoire de la création et décrit le néant originel. On y retrouve l'essentiel des thèmes fondamentaux de la philosophie indienne qui exalte la puissance du sacrifice et dont le but ultime est la délivrance. Le Samaveda est un manuel à l'usage des chantres, les chanteurs des célébrations liturgiques, présentés sous la forme d'un recueil de mélodies destinées à produire des effets magiques. Le Yajurveda révèle les formules sacrificielles que les prêtres doivent utiliser pour le culte rendu aux divinités. L'Atharva Veda consigne les formules magiques appropriées pour faire fuir les puissances hostiles, mais aussi pour permettre à de bonnes choses de se réaliser. Le Brahmanas sont des commentaires en prose écrits sous forme spéculative afin d'expliquer les rites. Ce sont des interprétations du Brahman, c'est-à-dire le soi suprême, la totalité, fondement divin de tout ce qui existe et par là même une première tentative pour expliquer le monde. Les Aranyakas, des traités forestiers, sont destinés à être récités en dehors des agglomérations compte tenu de leur caractère ésotérique dangereux. Les Upanishads sont de courts traités abordant sous forme spéculative les rapports entre l'âme humaine et l'âme cosmique, le Brahman. Les sutras, qui décrivent des cérémonies religieuses, des sacrifices et la manière de les accomplir, sont des aphorismes destinés à être appris par cœur.
N'oubliez pas le casting des castes. La société indienne est divisée en 4 castes génériques. Les Vama, tout en haut. Les prêtres, brahmanes, dépositaires du Veda et qui peuvent interpréter le dharma, la loi. Puis les guerriers, les kshatriyas, qui protègent le royaume. Ensuite viennent les agriculteurs et commerçants, les vaishyas. Enfin viennent les serviteurs, les sudras, qui servent les 3 autres castes. Les intouchables, quant à eux, sont les exclus de la société. Ils accomplissent les tâches les plus dégradantes, car ils sont hors caste. Chaque caste doit observer des rites et obligations propres, notamment en matière de travail et de mariage. Il est impossible de passer d'une caste à l'autre, puisque leur séparation repose à la fois sur une distinction entre le pur et l'impur, et sur la naissance. Officiellement aboli depuis 1947, le système des castes est toujours très présent dans les mentalités.
Les divinités hindoues. Les principales divinités sont les suivantes. Brahma, le dieu créateur appelé l'incommensurable ou le nombril de Vishnu, il n'est pas souvent représenté. Lorsqu'il l'est, c'est avec 4 têtes et 4 mains tenant un pot à bec utilisé pour créer la vie, un rosaire ou mala pour mesurer le temps de l'univers, le texte des Védas et une fleur de lotus. Siva ou Shiva est considéré comme le dieu destructeur du monde. Tenu pour un grand ascète, il est aussi le maître des yogis. Il passe aussi pour une force positive, puisqu'après la destruction, survient la création régénératrice. C'est pourquoi il est représenté sous la forme du linga, un emblème phallique. Krishna est le héros des 2 plus célèbres poèmes hindous. Le Gita Govinda, chant du berger, et le Bhagavad Gita, chant du bienheureux. Lorsqu'il descend sur terre, c'est pour délivrer les hommes des méfaits du roi Kamsa, assassin des fils de Devaki, sa propre cousine. À l'origine, Vishnu est un dieu solaire. Il est considéré comme le conservateur du cosmos ou le sauveur de l'humanité. Il apparaît sous la forme d'une 10 d'avatars ou incarnations transitoires qui ont inspiré les sculpteurs d'Angkor Wat au Cambodge ou d'Ellora en Inde. C'est l'avatar du poisson qui fait partie des traditions liées au déluge, de la tortue, du sanglier, du lion.
Un peu de technique. À l'Elohim. À l'origine, vers poétiques, récités ou chantés, les mantras sont ensuite devenus des formules sacrées. Le symbole le plus sacré de l'hindouisme, OM, sert de préfixe et parfois de suffixe aux mantras et à toutes les prières hindoues. Considéré comme la vibration primitive divine de l'univers, représentant toute existence, il est empli d'un message symbolique profond. Par sa répétition, ce mantra, concentration phonétique des 3 lettres AUM, symbolise les 3 divinités, Brahma, Vishnu et Shiva.
La doctrine hindouiste. rencontre d'un ensemble de cultes, façon de vivre et de penser autant que religion, l'hindouisme est une recherche de la connaissance de soi et du divin présent en chaque individu. Il est fondé sur une croyance de la mort originale et sur une théorie de la réincarnation qui consiste en la transmigration de l'âme pendant un cycle de naissance et de mort. La libération, qui constitue pour les hindous le but essentiel de la vie et plus généralement celui de toute évolution, correspond à la sortie de cette ronde des morts et des naissances. C'est le nirvana. En fait, nous subissons tout au long de l'existence la conséquence des actions que nous avons faites. Les actions bonnes sont créatrices d'un bon karma, les mauvaises d'un mauvais karma. Tant que nous avons du karma à épuiser, nous sommes obligés de renaître sur Terre à des intervalles variables et entrons dans cette ronde sans fin des morts et des naissances. L'âme, qui est l'élément permanent, est l'atman ou respiration, souffle. Elle peut habiter les vies animales et même redescendre dans le règne végétal, devenir brin d'herbe, liane ou ronce. C'est pour cette raison que tuer un animal pour un hindou est un crime. Les dieux eux-mêmes n'ont pas dédaigné se réincarner dans un animal, par exemple Vishnu en poisson ou en sanglier.
Le saviez-vous? Tous les chemins mènent à Dieu. L'Inde a toujours offert un terrain favorable à l'éclosion de toutes les formes de spiritualité et de métaphysique. Ramakrishna, l'un des principaux philosophes et maîtres à penser indiens, professait que toutes les religions recherchent le même but et plaçait la spiritualité au-dessus de tout ritualisme. Il a transmis son enseignement autant par la parole que par l'écrit. Né dans un village du Bengale occidental, il eut très tôt des expériences mystiques et sa réputation se propagea rapidement. À 9 ans, il reçoit l'initiation. On lui remet le cordon brahmanique, le consacrant dans la caste brahmanique. À 19 ans, il devient prêtre du temple de Kali, à Dakshineswar, et se retire dans la forêt, où il vit en ascète. À partir de 1872, il s'installe à Calcutta, où il étudie autant les pratiques indiennes qu'islamiques et chrétiennes. Les religions ne sont pas Dieu, mais juste les chemins, avait-il coutume de dire.